la parole, mais juste un petit commentaire par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Et oui, quand il y a des dérives autoritaires dans les pays, ça, les gens, ils devraient y penser par rapport aux prochaines élections, tous les gens qui votent en France. Quand il y a des dérives autoritaires dans les pays, un jour ou l'autre, les forces de police qui sont censées faire respecter la loi et protéger les citoyens, eh ben, au moins certaines d'entre eux deviennent des meurtriers. C'est ce qui vient de se passer aux États-Unis.
Et on peut rajouter que, effectivement, là, les démocrates ont l'air d'essayer de récupérer ce fait horrible pour vraiment se mettre ensemble et faire quelque chose. Et les juges, quand on arrivait là à l'émission de radio, on écoutait sur France Culture, et les juges considèrent que effectivement, c'est les citoyens qui sont en tort, parce qu'ils se sont mis ensemble, parce qu'effectivement, il y a des mouvements citoyens pour pour bloquer quand les personnes qui appartiennent à
cette police migratoire.
En plus, on sait que ces personnes-là ont été recrutées à la va-vite, en paquet. Enfin bon, on ne sait pas du tout qui est-ce qui est là-bas. Et donc, en fin de compte, ça va être le pauvre citoyen qui a crié ou qui a pris la photo qui va être coupable. Donc ça rappelle vraiment beaucoup de pays qu'on dénonce depuis des années. Et là, c'est les États-Unis.
C'est clair. Donc comme tu as la parole, vas-y, dis.
Je vais reprendre, mais là je vais traverser de l'autre côté, un pays aussi, un peu compliqué, on va dire, la Chine. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis pas mal d'années, en 2020, Zhang Song, elle faisait partie des personnes en faveur desquelles Amnesty demandait à se mobiliser dans le cadre des 10 jours pour signer, c'est-à-dire changer leur histoire, comme on a fait là tout de suite. Et cette personne-là, je vais vous raconter où elle en est maintenant. Donc, c'est un article de Pierre Aski qui est paru dans la chronique de ce mois-ci. Donc, il a intitulé « Deux fois disparu ». Un monde sans vérité n'a pas de sens. Dans certains pays, prononcer ces mots peut vous suffire à vous envoyer en prison. La Chine, qui se rêve en superpuissance, en fait hélas partie. Zhang, 42 ans, a été condamné en septembre 2025 à 4 ans de prison pour récidive du délit de provocation de troubles à l'ordre public. La jeune femme sortait à peine de 4 années d'emprisonnement pour les mêmes faits et n'a pu jouir que de quelques mois de liberté relative. Son histoire est exemplaire. Jeune avocate à Shanghai en début des années 2010, Zhang Song est l'une des cibles de la grande rave des avocats en 2012, un des premiers gestes de Xi Jinping après son accession au pouvoir. Les autorités arrêtent plus de 500 avocats et juristes, leur imposant un choix crucial: abandonner les affaires dites sensibles, saisie de terre, expulsion, licenciement abusif, ou perdre leur licence. Zhang Song refuse ce chantage. Elle est radiée. Quelques années plus tard, quand un étrange virus apparaît à Wuhan, Zhang Song veut en savoir plus. Elle se rend sur place au cœur de l'épidémie du Covid et devient journaliste citoyenne, offrant une information sans filtre ni censure. Début 2020, elle publie 122 vidéos montrant les couloirs des hôpitaux encombrés de patients, le crématorium de la ville fonctionnant 24 heures sur 24. Ces images contredisent les versions officielles et révèlent les mensonges. Le 15 mai 2020, Zhang Song disparaît, comme on dit pudiquement en Chine lorsqu'un opposant est arrêté. En détention, elle observe une grève de la faim qu'elle n'interrompt que sur l'insistance de sa famille. Un premier procès à huis clos la condamne à 4 ans de prison. Zhang Song n'a pas été condamnée parce qu'elle aurait menti, simplement parce qu'elle refusait de laisser le Parti communiste chinois le monopole de l'information, écrit alors Frédéric Lemaître, correspondant du Monde à Pékin. Elle sort en 2024, affaiblie, diminuée, comme le Monde, une vidéo de remerciement à ses soutiens. Mais Zhang Song ne plie pas. À l'image d'un Liu Xianbao de la génération précédente, prix Nobel de la paix 2010, mort en prison en 2018, elle reprend vite sa quête de vérité. Elle ouvre une chaîne YouTube. Quelques mois plus tard, le couperet tombe une fois de plus. Elle disparaît à nouveau. La justice la condamne une seconde fois à 4 ans de prison. Une question demeure. Peut-on prétendre diriger le monde comme le revendique Pékin, quand on craint les mots d'une jeune femme en quête de vérité.
Oui,
d'accord. Voilà, je trouvais l'article très, voilà, c'est très émouvant.
Cette dernière phrase, c'est toujours les grands dilemmes dans lesquels se trouvent les régimes autoritaires, effectivement, qui jouent les gros bras et les redresseurs de tort et qui terrorisent leur population, mais en même temps qui en ont peur. Ça a toujours été vrai.
Et en plus, c'est vrai qu'on a signé pour elle, on a parlé d'elle, et donc se dire que ce courage aussi est quand même très, ouais, je sais pas comment dire. Enfin bon, c'est vraiment nous à côté, on est petit jeu, quoi.
Oui,
enfin, voilà. Mais c'est vraiment formidable, c'est des gens comme ça.
On a commencé l'émission en parlant du courage des Iraniens à l'heure actuelle. C'est tout à fait comparable, quoi. Effectivement, ce sont des gens qui sont des héros de risquer leur vie, effectivement. Mais bon.
Il faut au moins parler d'elle. Voilà.
Et on ne peut que continuer à se mobiliser pour eux, de toute façon. Il n'y a rien de petit, il n'y a rien de négligeable. Donc voilà, c'est Clarlise qui voulait vous parler de la suite. Et je crois qu'elle va vous parler de Gaza, parce que l'actualité est toujours brûlante de ce côté-là, malheureusement.
Alors, il y a deux choses au niveau de Gaza. Je vais vous parler d'une pétition par rapport à, justement, sans justice, il n'y aura pas de paix durable possible. Et puis surtout de la décision du gouvernement israélien qui a décidé d'interdire l'accès à 37 ONG, dont Médecins Sans Frontières et Handicap International, si elles ne donnent pas une liste de leurs employés palestiniens. Donc leur interdire l'accès à Gaza. Donc les autorités de l'État hébreu ont déclaré que ces organisations avaient reçu un avis mentionnant que leur licence serait révoquée à compter du 1er janvier, donc si elles ne se plient pas à la demande. Donc là j'ai un article du Monde avec l'AFP qui a été publié le 31 décembre 2025. Donc les 37 organisations humanitaires, parmi lesquelles donc Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, Handicap International, sont concernées donc par une interdiction d'accès à Gaza qui doit entrer en vigueur jeudi si elles ne transmettent pas aux autorités le nom de leurs employés palestiniens, a annoncé donc le mercredi 31 décembre le gouvernement israélien. Ces ONG refusent de se soumettre à cette obligation car elles savent, comme nous le savons, que certains d'entre eux sont impliqués dans le terrorisme ou liés au Hamas, a indiqué mercredi Gilad Zik, un porte-parole du ministère de la Diaspora à l'agence France-Presse, en ajoutant « pas de passe-droit, pas de combine ». Pour Israël, ce nouveau dispositif vise à empêcher des acteurs hostiles ou des soutiens du terrorisme d'avoir accès au territoire palestinien. Les autorités israéliennes ont annoncé mardi que les organisations qui avaient refusé de soumettre la liste de leurs employés palestiniens pour écarter tout lien avec le terrorisme avaient reçu un avis mentionnant que leur licence serait révoquée à compter du 1er janvier avec l'obligation de cesser toute activité d'ici au 1er mars. Donc la plupart de ces acteurs humanitaires interviennent sur place de longue date avec l'accréditation obligatoire des autorités israéliennes. Donc Médecins Sans Frontières est spécifiquement ciblé, et le ministère de la Diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme israélien a révélé dans l'après-midi le nom des 37 ONG concernées, et parmi elles, les branches françaises, néerlandaises, suisses, belges et espagnoles de Médecins Sans Frontières, de Médecins du Monde et de Handicap International et de CARE. Les autorités israéliennes ont accusé Médecins Sans Frontières d'employer deux personnes ayant des liens avec des groupes armés palestiniens, ce que l'organisation a démenti. Dans un communiqué transmis à l'AFP, l'ONG a affirmé qu'elle appliquait des politiques internes strictes afin de garantir le respect des lois et d'empêcher tout détournement de l'aide ou toute association avec des groupes armés. Médecins Sans Frontières a par ailleurs expliqué qu'elle n'avait pas transmis la liste de ses employés car elle continue de demander à Israël des garanties et des clarifications concernant cette demande préoccupante. L'ONG a demandé à Israël de la laisser travailler à Gaza et en Cisjordanie. Les ONG concernées peuvent encore remettre la liste d'ici minuit mercredi pour échapper à l'interdiction. À défaut, elles perdront leur licence jeudi et auront jusqu'au 1er mars pour cesser toute activité à Gaza. Donc l'Union européenne a averti mercredi Israël que cette interdiction empêcherait l'acheminement d'aide vitale. L'Union européenne a été claire, la loi sur l'enregistrement des ONG ne peut pas être appliquée sous sa forme actuelle, a écrit la commissaire européenne Adja Laïb sur son compte X. Tous les obstacles à l'accès de l'aide humanitaire doivent être levés, a-t-elle ajouté. Donc c'est un dangereux précédent. Plusieurs ONG ont déclaré que les nouvelles règles auraient un impact majeur sur la distribution de l'aide à Gaza. Les organisations humanitaires affirmant que la quantité d'aide entrant à Gaza restait insuffisante, alors qu'un accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre prévoyait l'entrée de 600 camions par jour. Seulement 100 à 300 y transportent de l'aide humanitaire quotidiennement, selon les ONG et les Nations Unies. De son côté, le COGAT, l'organisme du ministère de la Défense israélienne, chargé de coordonner les activités civiles de l'armée israélienne dans les territoires palestiniens occupés, a déclaré la semaine dernière qu'en moyenne, 4200 camions d'aide entraient chaque jour à Gaza, ce qui correspond à environ 600 par jour. Donc c'est pas du tout ce qui est observé par les ONG. Donc le directeur de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lawarini, a qualifié mercredi la réglementation israélienne de dangereux précédent, dénonçant un mépris du droit international humanitaire et une multiplication des obstacles aux opérations d'aide. Le Hamas, accusé par Israël de détourner de l'aide humanitaire, s'est lui élevé contre ce qu'il voit comme un comportement criminel. Voilà. Et donc, dans l'enclave israélienne-palestinienne, dans l'enclave palestinienne ravagée par la guerre, il y a des centaines de milliers de personnes déplacées qui vivent dans des tentes sous la pluie et le vent glacial. Voilà. Oui. Et la pétition.
Oui, c'est ce que je pensais.
Voilà, c'est ça.
Il y a toujours une pétition en ligne.
Voilà, c'est ça. Donc, du coup, plus de 2 ans après le 7 octobre 2023, il y a un génocide se poursuit à Gaza. Et toutes les victimes israéliennes comme palestiniennes attendent toujours que justice soit rendue. Ni les groupes armés palestiniens, ni les dirigeants israéliens n'ont reconnu publiquement la gravité des crimes commis. Amnesty International appelle les États à dénoncer ces violations, à enquêter, à soutenir la justice internationale. Sans justice, aucune paix durable n'est possible. Donc le 9 octobre 2025, il y a eu un cessez-le-feu signé. Et quelques semaines plus tard, le plan Trump pour Gaza, présenté aux Nations Unies, était applaudi par des dirigeants du monde entier. Pourtant, il occulte totalement la question cruciale de la justice et de la lutte contre l'impunité. Cette apparente éclaircie masque ainsi une réalité brutale. Le génocide se poursuit à Gaza et les responsables de crimes graves, israéliens comme palestiniens, échappent toujours à la justice. C'est pourquoi Amnesty International alerte les dirigeants. Un plan de paix qui ignore les crimes commis n'est qu'une illusion. Donc on vous invite à signer la pétition qui est toujours sur le site d'Amnesty pour une justice internationale, condition indispensable à la paix. Et donc les faits et les récits que nous récoltons depuis des années sont sans appel. L'impunité nourrit les violences. Aucune paix durable ne peut se construire sur le déni des crimes. Voilà. Je ne vais pas vous lire tout l'article, hein, mais Amnesty International rappelle les obligations et leur demande d'assumer cette responsabilité envers toutes les victimes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Voilà. Donc vous pouvez retrouver la pétition par rapport à ça sur le site.
Tout à fait. Et n'hésitez pas non plus à signer les autres pétitions que vous trouverez dans la rubrique Agir, sur le site amnesty.fr, Amnesty avec un Y, on le répétera jamais assez, Amnesty avec un Y.fr, il y a effectivement plein de pétitions à signer.
Il y en a une pour l'Iran justement aussi, qui passe sur les...
Bon, là j'avais plusieurs pages sur Gaza, mais c'est très long.
Et
je vous, invite à aller sur le site. Quoi.
Complètement.
Ce qui était important, c'est de parler quand même, parce que c'est quand même monstrueux, d'interdire l'accès à la bande de Gaza aux organismes, enfin aux ONG d'aide humanitaire.
Déjà, eux n'arrivent pas à faire le travail comme ils voudraient, et en plus, s'ils ne sont pas là, voilà, on se dit,
c'est vraiment...
Ça fait partie de, comment dire, de toute la panoplie qu'on peut qualifier de génocide, effectivement, c'est la suite du génocide.
Apartheid, aussi.
Voilà. Et Amnesty, avec d'autres ONG, mais Amnesty a apporté les preuves dans un rapport que vous trouvez aussi, d'ailleurs, en français sur le site d'Amnesty.fr, un rapport qui est paru il y a bien 2 ans maintenant, et qui apportait les preuves que, effectivement, l'action des autorités israéliennes et de l'armée israélienne à Gaza était bien du ressort d'un génocide. Voilà. Avant la pause musicale, on va souffler un peu avec 2-3 bonnes nouvelles.
Voilà, c'est ce que tu avais dit, allez.
Vas-y, respire.
Donc, puisqu'on parle de guerre, malheureusement, mais là, c'est quand même une petite bonne nouvelle. Après 3 années de guerre impunie en Ukraine, un tribunal spécial chargé de juger le crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine a été créé. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un tel tribunal voit le jour. Donc peut-être
qu'un jour,
Vladimir Poutine sera
devant
ses juges.
Voilà.
Et ses sbires, ouais, voilà. L'ancien, alors autre bonne nouvelle, l'ancien, celui-là par contre il a été jugé, l'ancien chef de guerre congolais Robert Lumbala a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité, un procès historique qui s'est tenu à Paris dans le cadre de la compétence universelle pour des faits remontant à 2002. En Grèce, maintenant, après une campagne d'Amnesty International, le responsable des gardes-côtes grecs ainsi que 3 hauts gradés ont finalement été inculpés pour leur rôle dans le naufrage du Pyros, au cours duquel 600 personnes sont mortes. Il s'agissait bien sûr de 600 migrants et migrantes, hommes, femmes et enfants. Enfin, la dernière, avant de passer à la pause musicale, pas la dernière de la série, mais la dernière pour tout de suite. En Syrie, le nouveau gouvernement a annoncé la création d'une commission nationale pour la justice transitionnelle chargée d'enquêter sur les violations des droits humains commises pendant les années de guerre sous le régime de Bachar al-Assad. Voilà, Bachar al-Assad qui, lui, aussi continue à couler des jours paisibles
à Moscou. Voilà.
Entre criminels, on se comprend, hein, effectivement.
Bah, il aura un peu plus froid, c'est la
oui,
chose. Oui,
sans doute. On passe à la pause musicale, et là aussi, comme tout à l'heure, je vous dirai après pourquoi j'ai choisi ce morceau.
Rediffusion d'une émission de Principe Actif. Une rediff, quoi.
Elle chargeait les draps de l'hôtel, les traces de doigts sur les poubelles. Petite hirondelle, au milieu des corbeaux, elle chantait Desperado. Moi j'avais du retard sur le sommeil, je m'étais fait doubler par le soleil. Elle de l'autre côté du couloir, elle faisait chanter les miroirs. J'ai passé une heure de sa vie, une heure sous le soleil d'Algérie. Sous la course des planètes, il y a des moments qu'on regrette. Derrière ses paupières mi-closes, je voyais plus de gris que de rose. Quand je suis parti, j'ai bien compris que je perdais quelque chose. Ces enfants qui font rien à l'école et qui ont les poches pleines de tubes de colle. De toute façon, personne ne t'aide quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed. C'est le ciel en tôle ondulé pour toujours. C'est la fenêtre sur la 3e cour. C'est le cri des voisines, plein les oreilles et les heures de mauvais sommeil. Mais s'il y a quelqu'un autour qui comprend le mauvais français, le musulman, sous la cour des planètes, ça serait bien qu'ils s'inquiètent avant que ces paupières n'explosent et qu'elles prennent ce gris en overdose. Quand je suis parti, j'ai bien compris qu'on y pouvait quelque chose.
Mmh.
t'envoie 10 francs pour les enfants du Gange, parce que t'as vu des photos qui dérangent. T'envoie 10 francs pour les enfants d'ailleurs, parce que t'as vu des photos qui font peur, et elles que tu croises en bas de chez toi. Elles que tu croises en bas de chez toi. Depuis, je suis retourné à Marseille. Ses amis n'ont pas de nouvelles. Y'a trop d'hirondelles ou trop de corbeaux. Elle a dû changer de ghetto. Moi, je crois plutôt qu'elle change les draps de notre hôtel. D'autres traces de doigts sur d'autres poubelles. De l'autre côté d'un autre couloir, elle doit faire chanter les miroirs. Chanter les miroirs. Chanter les miroirs. Chanter les miroirs.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc une petite explication par rapport à ce morceau que j'ai choisi, qui est pas récent, hein, qui date des années 80, c'est un morceau de Francis Cabrel, et qui parle du racisme, de façon très imagée, du racisme anti-arabe et anti-musulman. Et si, moi je suis tombé aujourd'hui, on en avait parlé hier ensemble, mais je suis tombé aujourd'hui sur un article qui est paru, sur des propos absolument ignobles, il n'y a pas d'autre terme, c'est même pire qu'ignoble, dans la presse régionale française. Des commentaires qui ont été faits par rapport à la naissance des premiers bébés
du 1er janvier.
Ça se fait dans pas mal d'endroits, effectivement. La presse locale publie les prénoms des premiers nés de l'année, voilà, c'est plutôt sympa. Et il y en a un, c'était Avignon, le premier né s'appelle Zaïd, et à cause de ce prénom, il y a des commentaires absolument infect, mais quand je dis infect, c'est bien pire que ça, qui ont été publiés donc sur la presse régionale en question, qui a d'ailleurs décidé d'arrêter les commentaires, enfin de supprimer les commentaires, parce que c'était absolument insupportable, des propos qui sont effectivement des appels au meurtre par rapport à la naissance d'un enfant. Ça porte pas d'autre nom. Et ces gens-là, il faut quand même leur rappeler que c'est
des propos xénophobes, je suppose.
Oui, bien sûr. Mais j'ai même pas envie de les répéter à la radio.
Faut pas leur faire cette publicité-là.
Tellement c'est salissant.
Il faut soutenir les parents qui, d'ailleurs, portent plainte.
Voilà. Et donc, il faut rappeler aussi que c'est ce genre de propos qui a permis, dans un passé, au XXe siècle, mais qui n'est pas aussi lointain que ça, un régime comme le régime nazi, qui leur a permis, effectivement, de façonner les esprits pour qu'après, on détruise les bébés, juifs entre autres, mais pas que, mais juifs, effectivement. On détruise
juifs,
les bébés. Dans des chambres à gaz, dans des fours crématoires, effectivement. Et ce genre de propos absolument, encore une fois, infect, des gens, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de suivre le même chemin. Donc, franchement, ces gens-là, moi, qui se revendiquent comme bons Français, et ben moi, en tant que citoyen français, ces gens-là me salissent. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire.
Claire-Lise, je pense qu'elle avait
quelques mots à vous dire.
Alors, je voulais parler d'un pays dont on a déjà parlé une ou deux fois, et un petit peu en 2025, la République démocratique du Congo. Et ce qui se passe dans l'est de la RDC, c'est des civils qui sont victimes d'atrocités. Et dites à tout le monde que nous sommes en train d'être massacrés. Donc, dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a un conflit oublié par le reste du monde qui fait rage sur de vastes zones montagneuses. Notre chercheuse Raya Raged s'est rendue sur place pour enquêter sur les violations commises dans les populations civiles. Elle appelle à un réveil de la communauté internationale. Donc les forces démocratiques alliées, qu'on va appeler ADF, un groupe armé lié à l'État islamique et communément appelé ADF, enlève et tue des civils à une fréquence alarmante dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ils abusent en outre des femmes et des filles en les réduisant à l'esclavage sexuel. La grande majorité de ces crimes ne font évidemment jamais la une des journaux. En tant que chercheuse chargée d'enquêter pour Amnesty International sur les crimes de guerre et les violations commises dans les situations de crise, donc Raya Ragat, c'est elle qui parle, je me suis rendue au Nord Kivu le mois dernier afin de documenter les violations commises par les ADF. Alors que je me déplaçais d'une ville à l'autre pour m'entretenir avec des témoins d'attaques récentes, des incursions éclairs avaient lieu. Des hommes, des femmes et des enfants m'ont raconté comment ils avaient dû fuir pour sauver leur vie lorsque des combattants armés de fusils et de machettes avaient envahi leur village. Plusieurs m'ont confié des récits horribles, m'expliquant comment ils avaient vu des proches se faire tuer ou enlever. Des otages libérés ont évoqué des moments atroces, durant parfois des mois ou des années passées en captivité où ils étaient affamés ou contraints d'effectuer diverses tâches dans les camps des ADF, disséminés dans les forêts denses de la région. La couverture médiatique mondiale de ces attaques a été dérisoire. Pendant mon séjour dans l'est du Congo, les gros titres sur la RDC portaient principalement sur le processus de paix mené par les États-Unis et le Qatar dans le cadre du conflit avec le mouvement du 23 mars, le M23, soutenu par le Rwanda. Pendant ce temps, le territoire de Lubero, dans le Nord Kivu, subissait une longue semaine d'attaques au cours desquelles les combattants ADF sont allés de village en village, massacrant les habitants à coups de machette, tandis qu'ils incendiaient leurs maisons et les infrastructures vitales. Si les ADF sont originaires d'Ouganda, ils ciblent les civils congolais depuis le début des années 2000, lorsqu'ils se sont installés dans l'est de la RDC. En 2019, le groupe a prêté allégeance à l'État islamique, s'insérant dans un projet global. Les forces armées de la RDC, les FARD, et leurs homologues ougandais, l'UPDF, mènent une opération conjointe contre le groupe depuis 2021. Si la mission des Nations Unies en RDC, le MONUSCO, apporte depuis des années son soutien à divers organismes publics, son implication directe dans la lutte contre les ADF a été limitée. Alors que l'attention internationale et nationale s'est tournée vers les avancées du M23 au début de l'année 2025, les ADF ont profité du détournement de cette attention et des mouvements de troupes sur le terrain. La cruauté caractéristique des ADF s'est intensifiée, tant en termes d'intensité que de portée géographique. Elle s'est encore accélérée depuis août, s'acharnant sur les civils plutôt que sur les forces de sécurité. J'ai commencé mon enquête dans la ville de Beni, désormais capitale de facto de la principale du Nord Kivu, et qui souffre depuis longtemps de la violence des ADF. Compte tenu de la progression du groupe dans le territoire de Lubero, je me suis également rendue dans la ville de Butembo pour m'entretenir avec des survivants et témoins de l'une des attaques les plus sanglantes des ADF cette année, le massacre du 8 septembre dans le village de Kanto. Bon, je vais passer un petit peu, hein, parce que c'est quand même très long tout ce qu'elle décrit. Mais effectivement, il y a un sentiment d'impuissance qui était palpable dans le ton des témoignages. Il faisait écho au sentiment de nombreuses victimes avec lesquelles la journaliste a parlé. Un groupe qui se sentait particulièrement abandonné était celui des filles et des femmes enlevées par le groupe ADF et contraintes à des mariages avec des combattants de l'ADF. J'ai parlé à 6 de ces survivantes. Il leur avait été dit qu'elles avaient le choix entre accepter ou être tuées. La plupart ont échappé à une vie d'esclavage sexuel et de servitude domestique grâce à des opérations menées par les FARD et l'UDPF visant les camps où elles étaient retenues. Toutefois, elles déclaraient que de retour dans leur village, elles restaient prisonnières des regards méfiants et des chuchotements de leurs voisins. Celles qui sont rentrées chez elles avec des enfants ont raconté comment leurs propres familles ont rejeté les enfants, les petits, et une femme a déclaré que la pression exercée par les membres de sa famille pour qu'elle tue son propre enfant l'avait presque poussée à se suicider. Ces témoignages ont mis en évidence l'impact prolongé des violences infligées par les ADF et du combat silencieux de milliers de victimes ayant besoin d'un soutien important et multiforme, mais qui n'en bénéficient jamais et dont on ne parle jamais. Donc la communauté internationale doit intensifier ses efforts pour aider les autorités congolaises à venir en aide aux personnes survivantes, protéger les civils, enquêter et poursuivre les perpétrateurs des crimes de guerre généralisés commis par les ADF. Voilà. Je vais arrêter là parce qu'on voudrait rendre l'antenne à l'heure et on commence très mal. Pardon, Manu.
Et puis pour terminer l'émission, une dernière petite bonne nouvelle. Il a fait trois lignes. Et c'est juste, on commençait par l'Afghanistan au début de l'émission et ça concerne l'Afghanistan justement quand même. Il n'y en a pas beaucoup des bonnes nouvelles concernant l'Afghanistan. Donc en Afghanistan, un mandat d'arrêt contre les hauts dirigeants du régime des talibans a été émis pour crime contre l'humanité après la publication du rapport d'Amnesty, rapport qui s'appelle La guerre des talibans contre les femmes. C'est le premier mandat d'arrêt public demandé par le bureau du procureur.